Chapitre 94. Du plastique blanc. Axel Rissen ignore depuis combien de temps il est à la fenêtre, le regard perdu à l'horizon, après le départ de Robert et Beverly. Ses pensées s'attardent dans le passé. Il s'arrache ses souvenirs, puis avance jusqu'à la chaîne stéréo, met la face A de The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie et monte le volume. Pushing Through the Market Square. Axel prend dans le bar une bouteille de whisky parmi les plus chères. C'est un Macallan datant de la première année de la guerre, 1939. Il se verse un demi-verre et s'installe dans le canapé. Les yeux mi-clos, il écoute la musique, la voix jeune et le piano, puis il hume dans son verre l'odeur du fût de chêne, de cuves et de caves obscures, de la paille et du citrus. Il boit une gorgée. L'alcool brûle ses lèvres et emplit sa bouche. En déployant ses arômes, le liquide a vu défiler des générations, des changements de gouvernement, des guerres et des trêves. Axel tente de se convaincre que ce qui s'est passé est pour le mieux. Peut-être Beverly obtiendra-t-elle enfin l'aide dont elle a besoin. Il a soudain envie d'appeler son frère pour lui dire qu'il l'aime, mais se ravise et sourit du caractère légèrement pathétique de cette idée. Il ne se suicidera pas. Il affrontera simplement ce qui l'attend et tentera d'y faire face. Il apporte son whisky dans la chambre à coucher et regarde un instant le lit défait. Il a juste le temps d'entendre que son portable vibre dans sa veste lorsque des pas font grincer le parquet du salon. « Beverly ?» dit-il étonné. Elle a le visage poussiéreux et elle tient une aigrette de pissenlit à la main.
« Je ne voulais pas parler avec la police. »«
Où est Robert ?»«
J'ai fait du stop pour entrer. Il n'y a pas eu de soucis. Tout s'est bien passé. »
Pourquoi as-tu fait ça? Tu aurais dû...
Ne sois pas fâché. Je n'ai rien fait de mal. J'avais juste besoin de te dire quelque chose de très important.
Le téléphone se met de nouveau à vibrer. Attends, Beverly, je dois répondre. Il fouille dans les poches de sa veste, trouve son portable et s'empresse de répondre. Axel Rissen. C'est une voix lointaine.
Allô?
Allô? Répond Axel.
Raphaël Guidi à l'appareil.
Dit-il en anglais d'une voix grave.
« Je vous prie d'excuser le grésillement sur la ligne, mais je suis en mer. »«
Aucun problème, » répond poliment Axel en voyant Beverly s'asseoir sur le lit.
« Je vais aller droit au but. Je vous appelle pour savoir si vous avez eu le temps de signer l'autorisation d'exportation pour le Kenya. Je m'attendais à ce que le cargo puisse quitter le port à l'heure qu'il est. »
Axel se rend dans le salon avec le téléphone, mais n'entend que sa propre respiration. Il pense à la photo de Raphaël Guidi, Karl Palmkrona, Agatha Ladji et Pontus Salman. Il revoit la façon dont Palmkrona tenait son verre de champagne, son large sourire exhibant ses gencives.
« Vous êtes toujours là ?»
demande Raphaël Guidi après un moment. « Je ne compte pas signer l'autorisation, » répond sèchement Axel. Un frisson lui parcourt le dos.
« Je pourrais peut-être vous faire reconsidérer la question, »
dit Raphaël.
Je vous invite à songer à ce que je pourrais vous offrir si...
Vous n'avez rien qui m'intéresse.
Là, je pense que vous avez tort. Lorsque je signe un contrat...
Axel raccroche et le silence s'installe dans la pièce. Tandis qu'il remet le téléphone dans sa veste, il sent un grand malaise l'envahir, comme un mauvais pressentiment. Il se dirige alors vers la porte du couloir qui mène à l'escalier. Lorsqu'il regarde par la fenêtre, il perçoit un mouvement dans le parc, comme une ombre transparente entre les buissons à côté de la maison. Axel se tourne vers l'autre fenêtre mais ne voit rien. En revanche, il entend un bref tintement au rez-de-chaussée, comme du verre qui se brise au soleil. Axel se dit que c'est absurde, et pourtant il comprend ce qui est en train de se passer. Son cœur bat à tout rompre. Une montée d'adrénaline met tous ses sens en alerte et il se déplace aussi vite qu'il le peut sans courir. Il rejoint Beverly dans la chambre. Une belle lumière pénètre dans la pièce par l'interstice entre les rideaux. C'est comme un mur en verre qui transpercerait l'espace jusqu'aux pieds de Beverly. Elle s'est déshabillée et s'est allongée sur le lit défait avec le petit roman de Durenmat posé sur le ventre.
« Axel, Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle.
Ne t'inquiète pas, l'interrompt-il d'une voix qu'il veut la plus calme possible. Mais il faut que tu te caches sous le lit. Fais-le maintenant, et reste-y au moins une heure. Elle s'exécute sans poser de questions. Axel entend des pas rapides dans l'escalier. Ils sont au moins deux. Le jean et le t-shirt de Beverly gisent sur le fauteuil. Il les jette sous le lit. Son cœur cogne dans sa poitrine. Il regarde autour de lui et se sent terriblement impuissant. Les idées se bousculent dans sa tête. Il prend son téléphone et se précipite dans le salon. Derrière lui, des pas résonnent dans le couloir qui mène à la bibliothèque. Les mains tremblantes, il ouvre le clapet de son portable. Le plancher grince doucement. Quelqu'un arrive à pas feutrés. Il n'a plus le temps de téléphoner. Il tente de rejoindre la fenêtre pour crier à l'aide, mais quelqu'un empoigne son poignet droit et appuie quelque chose de frais contre son cou. Il ignore qu'il s'agit d'un pistolet à impulsion électrique. Son corps reçoit une décharge de 69 000 volts en émettant une sorte de crépitement. Mais Axel ne ressent qu'une série de coups violents, comme si quelqu'un lui frappait la nuque avec une barre de fer. Il ne se rend pas compte qu'il crie. Son cerveau s'endort et le monde alentour disparaît. Lorsqu'il reprend connaissance, un homme a déjà collé du scotch sur sa bouche. Il est allongé au sol et son corps est parcouru de spasmes. Ses jambes et ses bras tremblent. Il ressent une douleur terrible dans le cou. Il n'a aucun moyen de se défendre. Ses muscles sont paralysés. Avec une brutalité qui lui ressemble toute naturelle, il l'enroule dans du plastique blanc. Il se froisse autour de son corps et Axel pense qu'il va étouffer. Puis, il l'enroule de scotch avant de le soulever. Il tente de se tortiller mais ne parvient pas à bouger. Il ne contrôle plus ses muscles. Les deux hommes le portent calmement en bas de l'escalier, sortent de la maison par la porte d'entrée et montent dans une fourgonnette qui les attend devant.